Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Cette émission numéro 52 s'intitule « La dispute en couple ». La question d'aujourd'hui, la dispute en couple, est-elle inévitable ou nécessaire ? La plupart du temps, c'est ma femme qui se dispute avec moi. C'est très rarement l'inverse. Cette phrase peut porter à sourire. Pourtant, même si elle est formulée autrement, elle revient de temps en temps dans des échanges d'accompagnement. C'est une manière assez proche de donner l'impression que le départ de la dispute est ailleurs que chez vous ou que la cause est chez votre conjoint. Soyons honnêtes. Vous ne pensez jamais ça ? Vous n'avez jamais pensé ça ? Il ou elle se dispute avec vous parce qu'il ou elle fonctionne mal. Il ne voit pas les choses comme il serait mieux de les voir ou tout simplement à cause de son caractère. Pourquoi le couple se dispute finalement ? C'est bien là la question parce qu'en réalité, le motif et la cause de la dispute peuvent être aussi éloignés que le pôle sud l'est du pôle nord. Il n'arrête pas de me faire des reproches et je n'en peux plus. Rien de ce que je fais ne lui va. J'ai beau lui demander de faire attention à ce que je lui demande, elle fait comme si je n'avais rien dit. Je lui demande simplement de sortir les poubelles et il n'est pas capable de le faire. Baisser l'abattant des toilettes n'a rien de sorcier, pourtant, il ne sait pas faire. Comment une femme peut-elle oublier d'aller chercher ses gosses à l'école à l'heure ou de préparer le dîner ? Vous ne trouvez pas qu'il y a un os ? Je ne vous ai donné que 5 exemples pour ne pas vous inonder, mais je sais que vous en connaissez des dizaines, voire des centaines. Quand il est question de dispute, votre liste peut se dresser en 44 millisecondes et contenir une somme assez sérieuse de sujets. Et si je vous disais que votre démarche est dommageable pour votre couple ? Qu'à cela, j'ajoutais que votre lecture de la dispute est faussée. Qu'en penseriez-vous ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à votre réponse avant de poursuivre. Car en réalité, la liste des sujets de dispute ne vous avance à rien. Peut-être pourriez-vous prendre le temps d'écrire l'ensemble des sujets de dispute dans votre tête ou sur un papier et prendre le temps de le déchirer. Que cette liste soit faite sur le plan symbolique ou réel, avec une vraie feuille de papier, je vous invite à le faire. Déchirez-la. Pourquoi donc ? Parce qu'il est fort à parier que les raisons pour lesquelles vous disputez ne figurent pas sur votre liste. Pour avancer dans ce domaine de la dispute, je vous invite à ne pas confondre les sujets de dispute et la cause de vos disputes. C'est très souvent le lieu de bien des confusions, et si vous vous souvenez des exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure, il ne s'agit que de sujets de dispute. Quand vous vous disputez parce que vous n'êtes pas d'accord sur la destination de vos vacances, il s'agit d'un sujet, pas de la cause. Savoir si vous invitez votre mère à votre énième soirée pour garder vos enfants ou si vous payez les services d'une nounou n'est pas une cause, mais un sujet de dispute. C'est la même chose pour le choix de la couleur de la peinture de la chambre, le choix du canapé, le menu des enfants ou l'indifférence de votre conjoint à certains de vos besoins. Quelle différence y a-t-il entre une cause et un sujet ? Commençons par le sujet. Il touche à la surface, il est donc question de détails qui revêtent de l'importance pour l'autre, mais qui peut évoluer au fil du temps. Cette liste de sujets pourrait être assimilée à la partie visible de l'iceberg. Vous et votre conjoint la connaissez presque par cœur. Tout ce qu'elle contient est très accessible, je dirais même volatile. De cette liste, certains points fluctueront en fonction de votre humeur, par exemple. Quant à la cause, elle touche à votre identité, à qui vous êtes, et par conséquent, à la raison pour laquelle vous avez choisi d'aller dans telle ou telle direction de vie, que ce soit individuellement, un des membres du couple et l'autre, ou que ce soit collectivement, donc des valeurs du couple. Sa connexion avec vos valeurs rend votre réalité rarement souple. Il va de soi que l'ancrage dans les valeurs génère une moindre flexibilité. Cette liste de causes pourrait être assimilée à la partie immergée de l'iceberg cette fois-ci. Par conséquent, il s'agit de parties de vous-même illisibles par votre conjoint et dont une partie est également illisible par vous-même. Quoi que vous viviez, ces éléments resteront fermes, quasiment immuables, même si certaines valeurs peuvent évoluer avec le temps. C'est des causes dont parlent John et Julie Gottman quand ils qualifient certains problèmes d'insolubles. Le simple fait d'intégrer cette réalité implique que certaines disputes seront de fait inutiles. Vous saurez d'avance caler sur certains terrains vous conduira vers une impasse. La dernière fois que ma femme et moi avons abordé le début d'une dispute sur une cause, nous nous sommes souvenus qu'il s'agissait d'un problème insoluble. Sachant que nous étions en train d'entrer dans une impasse, nous avons tout simplement fait demi-tour. Ni elle, ni moi n'avions la capacité d'apporter un changement aidant pour le couple. C'était perdu d'avance. Certains trouvent cette approche négative. Pourtant, à bien y regarder, elle est éminemment positive. Adopter cette approche consiste à reconnaître que l'autre ne pourra pas correspondre à tout ce que je voudrais voir chez une personne que j'aime, et vice-versa. J'accepte donc de l'aimer en l'état, si je puis me permettre l'expression, sans rien attendre d'elle dans ce domaine. Quelque part, c'est déjà une première étape qui consiste à opter pour une dynamique positive dans une situation qui prenait une direction négative. Yvon Dallaire, qui est psychologue et sexologue, a étudié les couples et explique que c'est la façon dont un couple se dispute et non la façon dont un couple s'aime qui influence son bonheur et sa durée. C'est la façon dont le couple se dispute et non pas la façon dont le couple s'aime. C'est un regard hyper positif. Il voit la dispute comme nécessaire à la construction du couple. Et là-dessus, je le rejoins à 100% comme la plupart des thérapeutes qui travaillent avec des couples. Adopter une posture positive est un exercice très très difficile à vivre. Mais je vous y encourage. Cela dit, sachant que certains d'entre vous travaillent sur eux-mêmes et sur leur couple depuis des mois, voire des années, je vous propose quand même un exercice en me disant qu'il peut peut-être vous servir. Quoi qu'il en soit, même s'il paraît trop difficile au présent, qui sait ? Peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, vous le vivrez de manière apaisée en profitant de son efficacité. L'exercice consiste à vivre deux situations en même temps. Il implique que vous soyez en mesure d'être dans votre échange tendu tout en regardant l'échange que vous êtes en train de vivre de l'extérieur. Et pour visualiser la scène, imaginez que vous êtes en pleine dispute de couple. Votre conjoint vous répond et vous sentez que ça commence à monter. Hop ! Visualisez alors une sorte de doublure de vous-même que vous placez sur une chaise haute, comme un observateur. Quel sera son rôle ? Il aura à entendre et à voir ce qui se dit sans aucun jugement. Vous, en bas, pouvez être très impliqué dans l'échange. Quant à lui, il ne peut pas l'être. Il doit, et j'utilise sciemment le verbe « devoir », il doit rester neutre. Ne notez que les faits, les dire, et là il y a un petit peu moins de neutralité parce qu'il va aussi noter les vouloir dire. Quand vous arriverez à vivre ce double rôle, vous pourrez sortir de « j'ai raison, il a tort ». J'y reviendrai dans un instant. Et surtout, vous pourrez chercher à corréler votre dispute en couple à la cause de votre dispute, dépassant les sujets de détail. Enfin, plus vous le ferez, et moins vous aurez besoin de vous dédoubler pour votre prise de hauteur, cette prise de hauteur à laquelle je vous invite avec cet exercice. Vous percevrez de plus en plus tôt les causes de disputes en couple. Et grâce à cette approche, vous saurez s'il est pertinent de poursuivre, de braquer, d'aller à droite, à gauche, ou d'arrêter l'échange, tout simplement, parce que vous êtes face à un sujet cause qui, par exemple, est un sujet insoluble. Je vous encourage à ce sujet à cliquer sur le blog Couple Heureux. Vous allez voir que je vous mets en avant le livre de John et Julie Gottman qui s'intitule « Les 8 rendez-vous amoureux » dans lequel ils abordent en partie, puisqu'ils sont deux auteurs, excusez-moi, même quatre auteurs, vous irez voir ça sur le blog. Ils abordent en partie la question des conflits insolubles. Il ne fait pas que dans cet ouvrage-là, mais ce livre-là est disponible sur le blog avec le résumé. Vous pouvez aller voir le résumé du livre que j'ai pris soin de rédiger pour vous. Et si le livre vous intéresse, après avoir lu le résumé, vous pouvez cliquer pour aller le commander directement sur Amazon. En toute transparence, si vous l'achetez à partir du blog Couple Heureux, je touche quelques centimes je vous en remercierai d'avance. La dispute appelle systématiquement au changement. Et je vais vous proposer 5 changements. Le premier changement: n'abordez pas la dispute en couple en termes de « j'ai raison, il a tort ». Notez que la direction peut changer en fonction de votre humeur ou de votre tempérament. Certaines disputes peuvent voir s'inverser le sens de ce premier changement. Il peut alors être « j'ai tort, il a raison ». Ceci étant, quelle que soit la direction de la posture mentale, elle se base sur un travers. En effet, se positionner sur tort et raison ne permet pas au couple d'avancer. La dispute en couple doit dépasser ce paradigme pour devenir une rencontre bénéfique. Personne n'aime avoir tort. Il faut beaucoup de maturité ou utiliser le fait d'avoir tort comme une stratégie pour bien le vivre. Par conséquent, éviter de penser en termes tort-raison est une voie bénéfique pour le couple. C'est donc le premier changement auquel je vous invite. Changement numéro 2. Ne convoquer aucune dispute passée dans la dispute présente. Imaginer une date de péremption sur un conflit peut peut-être vous aider. Du coup, en allant chercher à faire des connexions avec des conflits antérieurs, vous pourrez envenimer le conflit présent sans aider à la solution. C'est un jeu auquel les journalistes s'adonnent facilement. Quelques semaines après le casse de la banque de tel endroit dans le nord de la France, un boulanger a été cambriolé en Alsace. Il ne s'agit pas là d'un fait réel, mais c'est juste une illustration que j'utilise pour vous montrer la technique journalistique. Il n'y a sans doute aucun lien entre ces deux événements, le casse en Bretagne et la boulangerie en Alsace. Mais le lien est fait. C'est une manière d'amplifier l'événement présent. Sachez qu'en imitant la technique de ces médias, vous amplifierez artificiellement le conflit présent. C'est pourquoi je vous encourage à ne traiter les conflits que les uns après les autres. Tout ce qui n'a rien à faire ici et maintenant sera donc convoqué plus tard. Et mieux encore, il le sera en période non conflictuelle, parce qu'évidemment, on voit bien mieux les choses à tête froide. Changement numéro 2. Cherchez à atteindre un objectif conjugal. Qu'il laisse traîner son linge sale, qu'elle prenne 3 plombes à se maquiller, qu'il caresse plus la voiture que sa femme ou qu'elle passe plus de temps à parler avec sa mère qu'avec vous, ne peut se résoudre sans ce changement numéro 3. Quel est votre projet de couple? Où allez-vous? Pourquoi y allez-vous? Il arrive que la répétition des disputes en couple soit le révélateur de couples qui ne savent plus où ils vont. Ils tournent en rond et s'abîment à force de ne plus avancer. Il est aussi possible que l'un ou l'autre se sente tellement malheureux qu'il cherche à le faire savoir à l'autre. Ce sentiment de mal-être peut être pleinement inconscient. Il est donc difficile d'y mettre des mots. Par conséquent, la répétition ou la multiplicité des sujets de conflits, de disputes, et surtout la multiplication des disputes, peut-être une sorte de petit signal, de petit voyant qui peut vous mettre la puce à l'oreille pour vous demander s'il y a bonheur ou bien-être ou développement satisfaisant de votre conjoint ou de vous-même si c'est vous qui avez tendance à perdre le contrôle de vos nerfs et à revenir régulièrement sur des sujets qui vont nourrir des disputes. Reprendre le temps de regarder la direction du couple peut donc vous aider. Vous pouvez alors revenir à une collaboration pleine de sens. Cela n'est pas à considérer comme une solution anti-dispute, c'est plutôt une solution permettant de vivre la dispute avec un paradigme plus sain. Il permet de voir le couple comme un outil aidant à la construction du couple, un parmi tant d'autres. Changement numéro 4. Régler les disputes ou donner du sens à votre conjugalité. Ce quatrième changement est assez proche du changement numéro 3. Il soulève une nuance qui est présente dans le verbe « régler ». Et si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez que j'aime le verbe « connaître » qui signifie « naître avec ». Or, il est tout à fait pertinent ici de le convoquer car la dispute est l'occasion rêvée de regarder les choses autrement et avant tout de se regarder soi-même autrement. En effet, votre évolution personnelle, votre manière de penser et tant d'autres données qui font que vous êtes qui vous êtes au moment de la dispute font que cette dispute a lieu. Elle n'aurait pas pu avoir lieu quelques semaines ou années plus tôt. Elle peut donc servir à vous révéler en partie bien des choses intéressantes sur vous. De plus, vous pouvez vivre la dispute sans intention de régler un problème, mais plutôt en visant à apprendre à naître avec vous-même, à soi. Évidemment, l'autre membre du couple deviendra une occasion de grandir. Cinquième changement. La première et la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. N'imaginez pas un instant que je ne sois pas conscient de la portée de cette affirmation. Il m'arrive encore de penser que ma femme devrait changer. Je reste convaincu de cela à l'heure à laquelle je vous parle. Je ne sais même pas s'il est possible que cette pensée me quitte un jour. Mais quoi qu'il en soit, je ne pourrai jamais changer ma femme. Je n'arrive déjà pas à opérer en moi les changements que je voudrais voir, imaginer le chantier sur quelqu'un duquel je n'ai pas le contrôle. Cette logique suffit à elle seule pour déterminer que le changement est à faire en vous. De plus, l'amour impose le respect du choix de l'autre. Je me suis arrêté là-dessus dans une émission concernant l'idée de changer votre conjoint. La manipulation est également exclue en amour, il ne reste que l'acceptation. Je vous encourage donc à changer vous-même. Je vous ai dressé 4 changements possibles juste à l'instant avant d'ajouter ce 5e présent changement qui est la première et la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Même si vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation, sachez qu'elle est véridique. Maintenant, quelle alternative existe-t-il à la dispute qui fait mal ? Je m'engage à aborder ce sujet la semaine prochaine, promis. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles, ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme « Partager » et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.